Salutations à vous. Le message d'aujourd'hui a pour titre, c'est très simple, mais ça contient beaucoup. C'est une petite phrase du Christ concernant les appelés, concernant les membres de l'Église. Vous êtes le sel de la terre. Alors, le titre de mon message, c'est simplement le sel de la terre. Comme je vous dis, ça concerne les appelés qui doivent devenir le sel de la terre. Paul en parle, lui, dans d'autres mots, à plusieurs occasions. Par exemple, il nous dit qu'on doit être les ambassadeurs de Christ. Hein? Vous vous rappelez de ce passage-là? Pourquoi il dit qu'on doit être les ambassadeurs de Christ? C'est que nous, en tant qu'appelés, on doit de plus en plus avoir les mêmes comportements, les mêmes attitudes que le Christ. Et dans ce sens-là, on devient ses ambassadeurs. Donc, quelqu'un qui le représente avec de plus en plus d'exactitude, de précision. Il dit aussi, soyez mes imitateurs, c'est Paul qui parle, comme je suis imitateur de Christ, selon le même principe. Et si on ressemble au Christ, ça doit être perceptible par les gens autour. Comme le sel dans la nourriture est perceptible et qu'il donne du bon goût. Ailleurs, dans Éphésiens 4, verset 1, Paul nous dit encore, soulignant le même principe, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est-à-dire, comportez-vous d'une manière digne de l'appel que Dieu vous a adressé, un appel personnel, pour que vous deveniez de plus en plus comme Jésus-Christ, comme le plus vieux de la famille, et de donner une saveur autour par notre comportement, comme le sel dans la nourriture. Ça doit être le résultat de notre attitude personnel, général, dans nos actions et dans nos paroles. De devenir un représentant du Christ, une évidence, si vous voulez, que le Christ vit en nous. Ça doit paraître. Si on est des chrétiens, ça doit paraître, avec les changements qu'on fait graduellement. Et la nature de Christ doit de plus en plus être présente en nous, au point de devenir, à un moment donné, notre propre nature. Quel est le but de ça? Ce n'est pas pour convertir personne. Ce n'est pas pour convaincre les autres de nos croyances. Pas du tout. C'est pour offrir un exemple personnel de ce que nous croyons et un exemple personnel de la vérité de l'Évangile qui est vécu par nous. Et pour donner un exemple personnel de ce qu'est la vraie religion. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être le sel de la terre. Reportez-vous à Matthieu, au chapitre 5, où le Christ fait cette déclaration-là concernant le sel. Matthieu, chapitre 5. Et nous allons lire le verset 13. Ça, c'est dans le contexte du sermon sur la montagne. Ici, Jésus montre à ses disciples, et ça s'adresse à nous aujourd'hui, qui sommes les disciples du Christ, quel est notre rôle. Alors, voici le rôle des vrais disciples du Christ. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Une toute petite phrase, hein, mais qui comprend, dans le fond, toute notre responsabilité d'appeler de chrétiens. Vous êtes le sel de la terre. Et après, il donne une contrepartie. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, après que Dieu nous a appelés, qu'on a été baptisés, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, si nous commençons à être le sel de la terre, mais que nous ralentissons et que nous nous détournons, on sera détruit. C'est que c'est un ou l'autre. Ou on maintient le cap, même si on n'est pas parfait, et qu'il nous arrive de trébucher, on demande pardon et on continue le combat. Ça, Dieu le comprend. Mais si nous nous détournons complètement, le sel que nous étions devient inutile et il est jeté même au feu à la fin de l'histoire. Bon, maintenant, tout de suite après, le Christ donne un autre exemple, un exemple différent, avec la lumière cette fois-ci, pour expliquer le même principe qu'on doit rayonner autour. Verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, voyez-vous? Elle est élevée et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire, elle ne fait pas de bruit, mais elle éclaire. C'est visible, sa présence est visible. Et c'est la même chose pour le sel, quand il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Donc, vous êtes le sel du monde autour de vous, de la société autour de vous. Et qu'est-ce que le sel fait? Le sel donne du goût. C'est ça. Une nourriture qui n'est pas salée, c'est fade, ça n'a pas de goût. Le sel donne du goût, fait ressortir ce qui est bon dans la nourriture, le rend savoureux. Maintenant, je dois préciser quelque chose. C'est que, à l'époque du Christ, l'exemple que le Christ a utilisé, l'exemple du sel, avait plus d'impact qu'aujourd'hui. L'exemple était plus frappant qu'aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, le sel était beaucoup plus rare. Aujourd'hui, on peut se procurer facilement du sel en quantité industrielle, si on veut. Mais à l'époque, c'était différent. Et avant, c'était différent aussi. Le sel était beaucoup plus rare. Dans l'Antiquité, il y a eu, on le voit dans l'histoire, plusieurs routes du sel qu'on appelle, où il y avait des systèmes de transport organisés pour déplacer le sel d'une région à l'autre, pour approvisionner ailleurs. Il y avait même des caravanes de dromadaires portant d'épaisses charges de sel sur leur dos qui traversaient tout le désert du Sahara. Alors, voyez-vous, le sel a joué un rôle vraiment important et il était considéré comme une matière très précieuse. Et il l'était. Le sel était difficile à obtenir et le sel coûtait très cher. Maintenant, je vais plus loin. Le sel a déjà été utilisé comme monnaie. Pour vous donner une idée à quel point c'était précieux. Ça servait de monnaie d'échange à un certain moment donné. Dans ce sens-là, même à l'époque de Christ, le sel a même servi à payer le salaire des soldats romains. Oui, vous regardez dans l'histoire, vous allez trouver ces événements-là décrits et qui nous aident à comprendre l'importance de cet exemple que le Christ a pris en parlant du sel. Le sel a servi à payer le salaire des soldats romains. D'ailleurs, le mot salaire en latin, c'est salarium, S-A-L-A-R-I-U-M. Il y a le mot sel dedans. C'est de là que vient le mot « sel », salaire. C'est de là que vient aussi le mot « salière ». C'est le mot « sel » qu'il y a au début du mot « salière ». On payait les soldats romains avec ce qu'on appelait une ration de sel, une certaine quantité de sel qui représentait un montant d'argent. Et on appelait cette ration de sel la « solde ». La solde des soldats. Les soldats étaient des gens employés qui étaient à solde. Quand on est à solde de quelqu'un, c'est qu'on dépend de quelqu'un pour notre subsistance. C'est lui qui nous donne notre salaire pour vivre. Alors voyez-vous, il y a une explication même dans les mots. C'est vraiment fascinant quand on regarde ça. Et on appelait les soldats des gens de solde. Il y a certains autres fonctionnaires qui étaient payés à ce moment-là avec du sel aussi, mais les soldats étaient des gens de solde, d'où leur nom soldats. Ils étaient payés avec des soldes, avec du sel, avec des rations de sel. Alors, j'ai pris le temps de vous donner ces exemples-là pour que nous voyons que tout ça montre le rôle important dans l'histoire joué par le sel. Cette denrée qui était plus rare à l'époque et qui avait un grand prix. Et ça nous montre aussi pourquoi le Christ a utilisé cet exemple-là pour illustrer ce qu'est un chrétien. Dieu se sert de ses appelés pour que chacun d'entre nous, par notre façon de vivre, que nous soyons le sel du monde autour de nous, que nous soyons un exemple de ce qu'est une vie vécu selon les lois divines. Ça fait une grande différence par rapport à ce qui se passe autour. Dans le fond, Dieu se sert de chacun de nous et il veut que nous agissions de la sorte pour bien le représenter, pour être les ambassadeurs de Christ, pour que notre vie de tous les jours, notre vie simple de tous les jours, là, donne bon goût autour. Comment? Par notre politesse, par notre gentillesse, par la patience qu'on développe, par le service à donner aux autres. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Pour que notre vie de tous les jours rehausse la qualité des liens avec les autres, que les autres soient considérés, respectés, appréciés, qu'on les remercie, qu'on reconnaisse ce qu'ils font pour nous, qu'on leur dise à partir de notre conjoint, à partir des gens autour de nous. Alors Dieu veut qu'on se serve de notre vie de tous les jours, de notre vie de chrétien, pour rehausser la qualité de nos liens avec les autres, pour donner une saveur additionnelle, agréable aux situations qu'on a à vivre avec les autres autour, et pour faire ressortir le bon qu'il y a dans les gens autour, l'apprécier, leur dire, le reconnaître, et qu'on fasse ressortir aussi ce qu'il y a de beau dans la vie et ce qu'il y a de juste, la façon divine de vivre et de faire les choses. Nous sommes le sel du monde autour de nous. Vous savez, dans ce sens-là, nous devons devenir totalement différents de ce que nous étions avant que Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre ses voies, il nous montre ses lois, il nous montre ses fêtes, son sabbat, c'est merveilleux, et il nous dit tout ça là, je vous le donne pour que vous en viviez, parce que je veux vous amener à une vie éternelle, ce que vous n'avez pas dans le moment, et à un avenir glorieux. Et Dieu nous donne en ça un espoir extraordinaire, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, on devient totalement différent et ça devient pour nous une grande motivation, quelles que soient les circonstances. Les circonstances, parfois, sont difficiles, comme elles le sont actuellement. Mais c'est l'espoir que Dieu nous donne qui nous fait vivre. Et le fait qu'on peut, n'importe quand, demander l'intervention de Dieu et qu'elle ne demande pas mieux que de nous aider, que de nous répondre, de nous aider à passer à travers ou de nous libérer de l'épreuve, ou comme je vous dis, de nous aider à la traverser avec succès. Alors, cet espoir précieux-là que Dieu nous donne, ça devient le grand but de notre existence. Dans le fond, en d'autres termes, la religion biblique que Dieu nous montre doit imprégner tous les aspects de notre vie. Et ça, chaque jour, c'est quelque chose qu'on développe graduellement à partir du moment où Dieu nous révèle ses voies. Et on continue à développer ça tout au long de notre vie. Vous savez, quand on regarde à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression. Et je dirais particulièrement par les temps qui courent en raison de la pandémie de COVID-19. Ça dérange, ça atteint le moral de beaucoup de personnes. C'est intéressant parce qu'il y a un article qui est paru le 2 août 2020, le 2 août de l'année dernière, dans une publication intitulée Trends in Psychology. Trends in Psychology. Et ça indique que chez certains, la foi, la croyance en Dieu, c'est-à-dire le fait de découvrir un sens à la vie, ça protège de la dépression. C'est intéressant, ils ont fait une recherche là-dessus et ils se sont rendus compte que dans plusieurs cas, ça avait cet effet-là, le fait de croire à un être supérieur qui est en charge de tout ce qui se passe et de connaître certaines choses par rapport à lui, d'attendre certaines choses par rapport à lui, d'apprendre à compter sur lui, ça donne un sentiment de sécurité malgré le bouleversement des situations autour. Et c'est une recherche qui n'est pas faite par des gens d'église, mais qui est fait par des gens qui travaillent en psychologie. Donc, Trends in Psychology du 2 août 2020. Et c'est intéressant parce que dans le bulletin hebdomadaire de l'Église de cette semaine, The World Ahead, qu'on appelle en anglais, on nous dit ceci, en citant justement l'article dont je vous parle. La véritable religion enseignée dans la parole de Dieu ne révèle pas seulement un sens à la vie, mais le sens de la vie. Tout est là. Quand Dieu se révèle à nous, quand il nous montre son plan, ça nous donne le sens de la vie, la raison d'espérer, le réconfort, l'encouragement. Et après, on nous dit, Dieu nous révèle l'avenir incroyablement positif et passionnant que Dieu réserve à l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas juste pour nous. Nous, on est appelés les premiers. C'est plus dur pour nous. Ça sera moins difficile pour ceux que Dieu va appeler après le retour de Christ. Mais pour nous, c'est plus difficile. Nous sommes la petite armée de tête, si vous voulez, qui devront préparer le terrain pour le retour de Christ et pour servir les gens et pour aider les gens dans le monde de demain. Mais Dieu réserve un avenir incroyable pour toute l'humanité. Cet avenir est plein d'espoir et peut nous apporter une remarquable paix d'esprit et un encouragement dans un monde malheureux et moribond. Fin de la citation. C'est ce qu'on écrivait dans le bulletin hebdomadaire de l'Église de cette semaine. Alors, voyez-vous, quand on connaît Dieu, qu'on voit à quel point il veut et qu'il intervient dans la vie de ses appelés, on apprend à compter sur lui. Et on apprend à chérir cet espoir glorieux qu'il nous donne. Et avec ça, par sa puissance, par son aide, malgré les bouleversements qu'il y a autour, et il y en a beaucoup, et il y en aura encore davantage, nous pouvons tenir le coup dans les tempêtes actuelles et dans celles qui viennent. Nous pouvons même avoir, comme c'est mentionné dans sa Bible, une sérénité intérieure. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence humaine, qui surpasse la difficulté de toute situation qui peut arriver. Malgré les changements autour, malgré les inconforts que ça apporte, malgré l'insécurité qu'il peut y avoir, il y a une sécurité intérieure, il y a une paix intérieure qui nous vient de Dieu. Si on compte sur lui, on connaît son plan et qu'on fait sa volonté, qu'on s'applique à faire sa volonté pour devenir de plus en plus comme le Christ, et là je rejoins le thème de mon message, à ce moment-là, nous devenons le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Il y a trois qualités spéciales du sel. Je veux préciser ça pour qu'on voit ce que nous devons être et ce que nous devons apporter autour de nous, même si nous n'essayons pas de convertir les gens. C'est pas notre rôle en tant que membre de l'Église. C'est d'être un exemple, comme j'ai expliqué tantôt. Première qualité du sel est très importante, c'est sa pureté. Il est exempt d'éléments contaminants. Le sel ne contamine pas. Comme nous, une fois qu'on a vu les standards de Dieu et qu'on se les approprie pour en vivre avec l'aide de Dieu, c'est que nous éliminons les mauvais standards du monde. Nous marchons dans la pureté de Dieu. Nous devenons un sel de plus en plus pur, ce qui doit être le cas. Alors, une des premières qualités du sel, c'est sa pureté. Et nous devons acquérir cette pureté-là et rejeter les standards mauvais du monde autour de nous et nos anciennes façons de faire qui étaient contraires aux lois de Dieu. Deuxième qualité du sel, c'est que le sel préserve de la corruption. Le sel préserve de la corruption ou de la destruction. Plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être assisté déjà à ça. Moi, je me rappelle, dans nos familles, c'était le cas autrefois. On conservait la viande avec du sel. On mettait la viande dans le sel ou on mettait des légumes dans le sel pour les conserver longtemps. Je me rappelle, ma mère, sur la ferme, à l'automne, elle prenait des concombres ou des cornichons et elle avait un procédé particulier pour les préparer. Elle enlevait l'intérieur et elle coupait les croûtes de dessus et elle mettait ça dans une saumure et dans le sel. Et c'était là, dans une jarre de grès, durant tout l'hiver. Et quand elle avait besoin d'avoir des concombres verts, elle les sortait, les faisait dessaler un peu. C'était délicieux pour accompagner les repas. Et ça durait jusqu'à l'été suivant. Alors, c'était pour préserver de la corruption. Alors, c'est intéressant. Il y a une comparaison avec nous, en tant que peuple de Dieu. Nous qui devons être le sel de la terre. Vous savez que bientôt, on voit maintenant les premiers bouillonnements qui vont nous amener vers la grande détresse. Et on sait que cette grande détresse-là va frapper la terre entière de façon majeure, comme jamais auparavant. Grande détresse qui va durer pendant 3 années et demie, tel qu'annoncé dans les textes. Le premier 2 ans et demi, ce sera la colère de Satan. Et la dernière année, ce sera la colère de l'agneau, la colère de Dieu sur le monde, jusqu'au jour du retour de Christ. Alors, ça, c'est ce qui s'en vient. Mais ce qu'on voit dans la Bible et ce qui nous montre l'intérêt que Dieu porte à ses appelés actuels et comment il les considère comme précieux et quel rôle il leur donne dans son plan, c'est qu'à cause de ses appelés qui sont le sel de la terre, Dieu va empêcher que l'humanité ne se détruise totalement. Il va préserver un reste à l'humanité à cause de ses élus, à cause de ses enfants fidèles qui sont le sel de la terre. Il va bientôt préserver l'humanité d'une destruction totale. Allez dans Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24, vous connaissez sans doute ce passage par cœur. Matthieu chapitre 24, verset 21. Ça décrit la détresse dont je vous parle et je vous amène par ce verset-là, surtout le verset suivant, à voir comment Dieu voit ses élus, ceux qu'il appelle maintenant. Car alors, à la fin, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça, ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qui vient. Si on pense actuellement que la pandémie fait des dommages, oui, elle fait des dommages. Et oui, elle fait des dommages énormes. Et oui, on n'a pas encore vu tous les dommages qu'elle va créer, même sur le plan économique et ainsi de suite, sur le plan familial et tout. Le Christ dit ici que cette détresse-là sera plus grande que tout ce qu'il y a eu dans le passé et que tout ce qui va venir après. Et regardez, il dit, « Et si ces jours, les jours de la grande détresse, là, n'étaient abrégés, s'il n'y avait pas un stop qui était mis à ça, personne ne serait sauvé. » C'est-à-dire, il n'y aurait pas un être humain sur la face de la terre qui survivrait. L'humanité se serait détruite totalement. Mais regardez ce qu'il dit après. Mais à cause des élus, le sel de la terre, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il y aura un terme que Dieu mettra à ces jours pour que l'humanité ne se détruise pas au complet, pour qu'un reste subsiste et continue de vivre. Alors voyez-vous le rôle de préservation que Dieu donne à ses élus qui doivent être le sel de la terre? La responsabilité qu'il met sur nos épaules, pas par notre valeur ou par notre puissance, mais regardez comment Dieu nous voit, comment Dieu nous considère et quel rôle il nous permet de jouer. Et en même temps, c'est encourageant pour nous quand on voit qu'à cause de ce qu'on s'efforce de faire pour devenir de plus en plus le sel de la terre et vivre comme le Christ, que ça va amener la protection d'un grand nombre de personnes sur la face de la terre, ceux qui survivront à la grande détresse, parce qu'il y aura des survivants. Ce ne sera pas des populations énormes, mais il y aura quand même un certain nombre qui va survivre à cause des élus qui vont rester en vie, qui vont continuer à vivre après le retour de Christ, qui vont reprendre leur existence, mais qui vont se voir enseigner les voies de Dieu comme elles nous sont enseignées à vous et à moi maintenant, et qui vont pouvoir élever des familles, vivre heureux, avoir une vie abondante. Formidable. Alors donc, première qualité du sel, c'est qu'il est pur. Deuxième qualité du sel qu'on peut lui donner, c'est qu'il préserve de la corruption ou de la destruction. Et la troisième qualité sur laquelle j'attire votre attention de façon particulière à cause du message d'aujourd'hui, c'est que le sel donne de la saveur. Le sel répand un goût agréable dans la nourriture. Ça, vous le savez par expérience. Quand la nourriture manque de sel, c'est fade. Et vous pourrez aller voir dans Job chapitre 6 et le verset 6. C'est intéressant de voir le petit verset que Job mentionne, c'est-à-dire la petite phrase que Job dit qui nous rappelle exactement le principe que je vous donne. Job 6, verset 6, il dit ceci. « Peut-on manger ce qui est fade sans sel? » Job pose la question. « Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? » C'est vrai. Si vous goûtez le blanc d'un œuf, ça goûte rien. Si vous mettez un peu de sel, voilà, c'est agréable. Alors, c'est ce que Job avait compris et c'est ce qu'il mentionne dans Job 6, verset 6. Le sel symbolise ce qu'il y a du goût, ce qu'il y a de la saveur. Et quand vous regardez la définition dans les dictionnaires, ça dit ceci, que c'est un ingrédient qui donne de la saveur, qui donne du piquant. C'est le rôle principal du sel. Alors, la question qu'on peut se poser, après qu'on a vu la phrase que le Christ a dit, « Vous êtes le sel de la terre », nous, la question qu'on doit se poser en tant que chrétien, est-ce que ma vie de chrétien est comme ça? Est-ce que ma vie de chrétien permet aux autres autour de profiter de la saveur que je dois donner dans mes actions, dans mes attitudes, dans mes réponses, et ainsi de suite. Est-ce que les autres peuvent apprécier le goût de ma façon de vivre, de ma façon de me comporter, de ma façon de parler et d'agir? Même s'ils ne comprennent pas mes convictions, là, juste par ma façon d'agir, je ne sais pas de les changer, mais parce que je suis plus gentil, plus poli, plus patient, que je les considère, que je les respecte en tant que chrétien, parce que j'apprends à faire ça, qu'ils goûtent à ça, même s'ils disent, ouais, il y a une drôle de religion, mais il est gentil, puis c'est intéressant d'avoir contact avec lui ou avec elle. Je me rappelle, lors des fêtes des tabernacles, lorsqu'on était dans des grands hôtels, ce qu'on faisait à la fin de la fête, et là je vous amène les réactions des gens de l'hôtel, lorsqu'on arrivait à la fin de la fête, je mets l'initiative, c'est qu'il y a des gens de l'église qui faisaient circuler une grande carte de remerciement parmi tous ceux qui avaient habité à cet hôtel-là durant les 8 jours de la fête. Et chacun mettait son petit mot ou signait son nom pour dire merci aux femmes de chambre, par exemple, ou au personnel de l'hôtel. Il y avait une carte pour le personnel de l'hôtel, il y avait une carte pour le personnel qui s'occupait des chambres. Et quand la fête était finie, là, on remettait cette carte-là à qui de droit avant de quitter. Et écoutez, les gens, les femmes de chambre, comme les gens à la réception ou les gens qui nous servaient à l'hôtel, n'avaient jamais vu ça. Et moi, je me rappelle les commentaires qui nous ont été donnés à la suite de ça. On faisait ça chaque année en dernier quand on se réunissait dans les hôtels. Les gens nous disaient, vous êtes bizarre, mais vous êtes tellement gentil. Vous êtes bizarre, pourquoi? Parce que vous célébrez des fêtes qu'on comprend pas. Vous célébrez des fêtes qu'on ne connaît pas, qu'on trouve bizarre absolument, mais on apprécie beaucoup votre présence, puis on apprécie votre façon de faire, puis on apprécie tellement que vous reconnaissez nos efforts pour vous servir. Voyez-vous, ça c'est être le sel de la terre, pour que les autres autour puissent y goûter, même s'ils ne comprennent pas le fait qu'on est si différent, et même s'ils n'acceptent pas qu'on observe le sabbat ou qu'on observe les fêtes. Et nous, ça nous donne une conscience heureuse et joyeuse. On est conscient d'être le sel de la terre, puis on voit les produits que ça produit, que ça donne. Parce que c'est ça notre identité. Et c'est ça notre cheminement vers le but, pour arriver au but, en faisant notre responsabilité maintenant, et pour arriver à la vie éternelle glorieuse, où on pourra directement servir les gens, et là enseigner tous ceux qui sont encore vivants après le retour de Christ. Alors voyez-vous, et là je précise quelque chose. Être le sel de la terre, c'est pas par des grands exploits éclatants. Il peut parfois avoir certains moments donnés où on va accomplir une chose éclatante, là, parce qu'on est le sel de la terre et qu'on veut rendre service ou aider. Mais c'est pas d'abord par ça et c'est pas souvent par des actes d'éclat qu'on est le sel de la terre. On est le sel de la terre par de tout petits gestes de chaque jour, dans toutes les situations qu'on a à vivre. Si on est conscient de qui on est, qu'on est les représentants du Christ, qu'on est les fils et les filles de Dieu, et qu'on doit agir en conséquence, voyez-vous qu'on doit marcher selon ça. Et ça doit être perçu autour dans nos petits gestes de chaque jour. Comment? Par un sourire à ceux avec qui on a affaire. Par un merci aux caissières dans les magasins. Par un merci au postier qui vient nous porter le courrier, par un merci chaleureux à tous ceux qui nous servent, prendre le temps de répondre à ceux qui nous posent des questions, accorder de l'importance aux gens, qui qu'ils soient. Quand quelqu'un s'adresse à nous, de prendre le temps de s'arrêter, de regarder la personne, de la considérer et de répondre à ses questions. Ça veut dire, vous êtes important, vous avez une valeur à mes yeux. Et je dirais, s'arrêter pour regarder la personne qui nous parle, surtout, comme ça a été mentionné dernièrement dans un sermon, à juste titre, surtout envers nos proches, envers notre épouse, notre époux, envers nos enfants, nos parents, nos amis, parce que on est porté parfois à les prendre pour acquis, à agir par excès de familiarité et à porter moins attention. Et ça, c'est être le sel de la terre. Quand quelqu'un nous parle, de nous arrêter pour lui accorder notre attention et de donner suite, comme les choses doivent être faites. Et ça, ça veut dire, vous êtes important à mes yeux. Je vous considère. Voyez-vous ce que ça veut dire? Je vous l'explique. Mais vous le savez quand quelqu'un le fait en ce qui vous concerne. Vous avez trouvé ça agréable. Et c'était normal. Alors ça, c'est une autre façon d'être le sel de la terre. Une autre façon d'être le sel de la terre, c'est de respecter les consignes qui nous sont données. La société nous donne toutes sortes de consignes à respecter, que ce soit les lois de la circulation, que ce soit d'autres lois, de les respecter. La Bible nous dit de respecter nos dirigeants et de respecter les lois. Et respecter les consignes dans toutes les situations, comme actuellement, avec la pandémie qui frappe le monde, on doit mettre en pratique, là où c'est exigé, la consigne des masques et la consigne de la distanciation à respecter, là où il y a couvre-feu, le couvre-feu. Alors, en étant des fils et des filles de Dieu, une des façons d'être le sel de la terre, de manifester qu'on est des gens qui agissent selon les enseignements de Dieu, c'est de respecter ces consignes-là de tout notre cœur et de s'assurer de les mettre en pratique. Une autre façon d'être le sel de la terre, c'est de montrer de la patience quand on est dans une file d'attente, d'attendre le temps qu'il faut. Si ça dérange, ça dérange, c'est tout. Et si on doit laisser passer quelqu'un d'autre qui est plus pressé que nous ou qui est handicapé ou quoi que ce soit, faut le faire. Ça fait partie d'être le sel de la terre. Dans ce que je vous dis, être les petites actions de chaque journée, qui ne sont pas marquées dans le journal, mais qui sont le fait que vous êtes un représentant actif de Dieu dans votre milieu. De remettre, par exemple, à la caissière un trop-perçu qu'elle vous a donné. Ce serait facile, hein, de dire, bon, je le garde, c'est trompé, elle m'a donné tel montant de trop en me remettant le change. Mais non, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être honnête. Et je lui dis, je pense qu'il y a eu erreur, mademoiselle, voici, ça appartient au magasin, c'est pas à moi, là. C'est trop. Vous me devez seulement tel montant. Une autre façon, il y en aurait, que je pourrais vous faire une longue liste, une autre façon de bien représenter Dieu, d'être le sel de la terre, c'est de garder propre et en ordre notre lieu d'habitation, notre voiture, nos propriétés. Ça, c'est une façon de bien représenter Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de qualité. Alors, même si on n'est pas riche, moi, j'ai connu des gens dans l'Église qui étaient très pauvres, mais ce qu'ils avaient était bien entretenu et bien présenté. C'était des représentants de Dieu. C'était des gens qui étaient vraiment le sel de la terre. Maintenant, je vais un peu plus loin. Un autre rôle du sel, c'est de susciter la soif. Là, je vous apprends rien. Parce que si vous mangez un mets qui est très salé, il va arriver quoi? Vous allez avoir soif après. Vous allez vouloir prendre de l'eau. Alors, ça suscite la soif. Et j'utilise cette situation-là pour aller plus loin dans le fait qu'on doit être le sel de la terre et que le fait d'être le sel de la terre produit des résultats autour de nous, que nous le voulions ou non, ou que nous le réalisions ou non. Notre façon chrétienne de vivre, d'être le sel de la terre, ce que ça fait, c'est que ça donne soif autour de nous. Oui, le sel donne soif, hein? Je vous l'ai dit, là. C'est la même chose au point de vue spirituel. Si vous vivez selon Dieu, que vous le réalisiez ou non, ça va donner soif autour de vous. Soit à notre époque, soit maintenant, ou soit plus tard. Et je vais vous l'expliquer. Votre façon de vivre chrétiennement, d'être le sel de la terre, donne soif autour de vous. À notre époque, par exemple. Certains vont venir à l'Église parce qu'ils ont vu l'exemple d'un autre membre de l'Église. C'est arrivé à plusieurs occasions dans le passé. Cette personne-là, sans essayer de convaincre son voisin verbalement, a donné l'exemple du sabbat. La personne lui a demandé pourquoi elle partait bien vêtue chaque samedi. L'autre lui a dit, et sans essayer de le convaincre, mais lui a donné la vraie raison. Et si l'autre personne était appelée par Dieu, elle a continué de faire le chemin. Alors, voyez-vous, elle a eu soif en ayant contact avec quelqu'un qui est le sel de la terre. Et elle a eu sa réponse et elle est venue à l'Église. Et c'est arrivé dans plusieurs cas pour ce qui concerne des couples, par exemple. À un moment donné, l'épouse a été appelée dans l'Église, mais pas le mari tout de suite. Il y avait seulement l'épouse. Et avec le temps, l'épouse n'a pas essayé de convaincre son mari. Dans certains cas, ils ont essayé, mais ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas le faire. Ils ont arrêté de le faire. L'épouse a respecté son mari qui ne croyait pas les mêmes choses et qui ne mangeait pas les mêmes choses, et ainsi de suite. Mais elle a fait ce qu'elle devait faire. Et en cela, elle a été un exemple. Et dans beaucoup de cas, le mari, plus tard, s'est converti et il est venu à l'Église. Même chose à l'inverse. Parfois, c'est le mari qui a été le premier à être appelé et la femme l'a été seulement plus tard, suivant l'exemple. C'est formidable. Reportez-vous, on voit ça dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul en parle de ces situations-là. Je connais un certain nombre de personnes dont c'est le cas dans l'Église. C'est toujours mignon de voir ça. Paul en parle ici. Il dit au verset 12 à 14, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante, mettons, un homme est appelé dans l'Église, mais sa femme ne croit pas, pour l'instant, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Continuez à vivre en tant que couple, c'est normal. Et si une femme a un mari non-croyant, si elle est appelée, mais que son mari ne croit pas, qu'elle le laisse tranquille, qu'il fasse ses choses et qu'elle fasse les siennes, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. » Regardez le verset 14. « Car le mari, dans ce cas-là, le mari non-croyant, est sanctifié par la femme. Il est mis dans une catégorie spéciale par Dieu. Et la femme non-croyante, si c'est le cas, est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Nos enfants, dans ce cas-là, sont mis à part dans une catégorie spéciale. Parce que nous sommes à l'Église, parce que Dieu nous a appelés. Et regardez le verset 16. « Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? » Comment? Par ton exemple. Pas en essayant de le convaincre. « Ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Donc, c'est ça que je vous dis, ça suscite la soif. La façon d'une personne de se comporter en tant que chrétien, en tant que celle de la terre, ça peut aider son mari ou sa femme à faire le chemin vers Dieu, si Dieu l'appelle. Ça, c'est ce qui peut se passer dans un avenir plus immédiat. Maintenant, l'exemple que nous donnons, en étant le sel de la terre, peut produire des résultats seulement plus tard, après la grande détresse, dans le monde de demain. On sait qu'après la grande détresse, les survivants de la grande détresse, ces gens-là vont désirer vivement apprendre la vérité. Ils vont avoir soif de la vérité qui montre la voie du bonheur, la voie de la paix d'esprit. Ils vont tellement le désirer, comme on voit dans Ésaïe, chapitre 2, verset 3, on ne s'y reportera pas, mais ça décrit la réaction des survivants après le retour de Christ. Ils vont monter à Jérusalem pour dire, enseignez-nous la voie de Dieu, montrez-nous quelle est sa loi, et ainsi de suite. On veut savoir, on veut en vivre. Donc, les gens auront soif de comprendre la vérité et d'en vivre. Mais vous savez une chose, c'est que certains de ces personnes-là qui auront survécu à la grande détresse et qui sont des survivants du début du monde de demain, certains se souviendront de vous, de l'exemple que vous avez donné par votre gentillesse, par votre façon d'être fidèle à vos croyances, sans compromis, par votre générosité, par votre patience, et ainsi de suite. Certains vont se rappeler et vont faire le lien entre les deux. Le monde sera assoiffé à ce moment-là de vérité divine comme jamais auparavant. Une soif que nous aurons favorisée et suscitée dans une certaine mesure par notre exemple personnel, par le service que nous aurons donné, par notre attitude de chrétien. Reportez-vous à Jean chapitre 7. C'est vraiment intéressant. Jean, le chapitre 7, on voit ici ce que le Christ déclare à ce sujet-là de ce qui va se produire dans le monde de demain après son retour. Le Christ va étancher la soif de comprendre des gens et nous allons étancher leur soif. Nous aurons un rôle à jouer là-dedans. Regardez Jean 7 et le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, un grand sabbat annuel, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, de comprendre la vérité, d'en vivre, d'être heureux, de découvrir le vrai but et le seul vrai but de la vie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Les fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu le donne maintenant à ceux qui sont appelés, qui sont baptisés, qui reçoivent l'imposition des mains et qui, s'ils sont fidèles jusqu'au bout, seront là avec le Christ pour que les eaux vives sortent d'eux-mêmes aussi, pour donner à boire à ceux qui auront tellement soif après le retour du Christ. Alors voyez-vous, vous et moi, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, nous allons pouvoir donner ce qu'il faut pour étancher la soif des nations et même de gens que nous reconnaîtrons peut-être à l'époque. Et ces gens-là vont pouvoir finalement connaître le vrai Dieu, connaître son plan, le comprendre, être consolé, être guidé. C'est tellement formidable. C'est grand ce à quoi Dieu nous appelle. Et vous savez, dans la toute petite phrase que je vous ai dit au début, soyez le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Il y a énormément dans cette petite phrase du Christ. L'une des responsabilités les plus importantes d'un chrétien, c'est d'être, dans ce sens-là, un témoignage pour le monde non converti autour. Comme je vous ai dit, par notre façon de vivre, par notre façon d'être, par notre façon de parler, par notre façon de nous habiller, par notre façon d'interagir avec les autres, par notre façon de nous soucier des autres, par notre façon de donner aux autres, dans la mesure que nous pouvons, différentes choses, soit des choses matérielles ou soit des choses affectueuses, une reconnaissance, une appréciation, et ainsi de suite. Alors ça, c'est une de nos principales responsabilités, sinon la principale, d'être un témoignage à un monde non converti, de donner une saveur de ce qu'est le monde de demain, de ce que sera cette nouvelle société, qui peut déjà être perçue dans la saveur que nous répandons par notre façon de nous comporter. C'est un avant-goût, si vous voulez, que les gens peuvent avoir du monde de demain, sans tout comprendre pour l'instant. Le temps va venir où ils pourront comprendre. Ce n'est pas le moment, parce que Dieu sait très bien quel est le meilleur moment d'appeler chaque individu. Et si Dieu vous a appelé, vous, à ce moment-ci de votre vie, que vous soyez jeune, que vous soyez très vieux, que vous soyez très malade ou en santé, ou quelle que soit votre condition, c'est parce que Dieu savait que c'est le meilleur moment pour vous d'être appelé, que c'est à ce moment-ci qu'avec son aide, vous avez le plus de chances d'y arriver. C'est ça. Et si Dieu n'appelle pas quelqu'un que vous aimez, un proche, pour l'instant, lui sait que ce n'est pas encore le meilleur moment. Laissez à Dieu l'initiative de prendre cette décision-là et d'agir au moment où lui sait être le meilleur pour votre être cher ou pour vos êtres chers. Dieu ne les abandonne pas et il ne les abandonnera pas. Il va agir au meilleur moment. C'est là qu'il faut faire confiance à notre grand Créateur. Alors, comme je vous dis, nous, c'est de donner un témoignage par notre façon de vivre, étant celle de la terre, à un monde non converti. Pourquoi? Pour montrer le bon, pour montrer la bonne saveur que donne la voix de Dieu. Et je vais plus loin, pour laisser un souvenir, c'est pas pour rien, pour laisser un souvenir de ce qu'est la voix de Dieu, qui va servir à ces gens-là avec qui nous sommes, le jour où Dieu va les appeler. Ça jouera un rôle pour eux à ce moment-là. Dieu est puissant et Dieu travaille dans le temps avec toutes sortes de petites choses, un peu ici, un peu là, et lui est en charge de tout ça. Dieu a toujours été sur son trône en contrôle de tout. Oui, il a laissé l'humanité aller à sa folie parce que l'humanité a elle-même choisi de rejeter Dieu et de faire les choses à sa façon. Mais ça change pas Dieu et ça change pas le fait qu'il est en charge. Il a délibérément laissé ce monde sous la gouverne de Satan parce que le monde a choisi de se laisser guider par Satan. Mais quand ce sera terminé, ce sera terminé et Satan n'aura plus de rôle à jouer, tout simplement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais Dieu est encore en contrôle et ce qu'il fait, c'est qu'il appelle un tout petit troupeau qui ont, eux, comme vous et moi, à lutter dans des circonstances difficiles pour vivre selon la voie de Dieu et ne pas se décourager, Mais apprendre, et on doit l'apprendre toute notre vie, à compter de plus en plus sur Dieu. On est tellement oublieux, on oublie souvent de remettre entre ses mains les choses qu'on a à faire, même les choses les plus anodines. Et plus on apprend à demander qu'il s'associe à ce qu'on a à faire au cours de notre journée, plus les choses changent et plus on réussit. Mieux ça va. C'est une chose qu'on doit apprendre. Mais en vivant, je reviens à ça, en tant que celle de la terre, nous laissons un souvenir qui va jouer son rôle dans l'histoire. Allez à 1 Pierre chapitre 2. C'est très clairement expliqué ici. C'est très clairement expliqué ici par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2 et le verset 12. Ça, je vous disais tantôt qu'on doit donner un témoignage par notre exemple à un monde qui n'est pas converti. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont aimer tout ce qu'on fait et qu'ils vont comprendre tout ce qu'on fait. Absolument pas, mais il faut le faire. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit ici de ceux qui sont appelés et qui sont le sel de la terre. « Ayez au milieu des païens, donc les païens, ce sont ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu, qu'ils aient une religion ou non, quelle que soit la sorte de religion qu'ils ont, c'est pas ça important. L'important, c'est qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu, même s'ils ont toutes sortes de religions. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, une conduite selon Dieu, être des ambassadeurs de Christ, afin que, et là il dit ce que ça va produire, si on a une conduite chrétienne au milieu d'un monde qui n'est pas chrétien, il dit, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que même si vous faites le bien, il y en a qui vont vous calomnier, qui vont vous accuser, qui vont même vous en vouloir et qui vont peut-être vous attaquer, qui vont vous rejeter, qui vont vous renier. Il y aura toutes sortes de persécutions et on sait que ça a été annoncé et que ces choses-là se passent actuellement et que ça va se passer encore dans le futur. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, parce qu'ils comprennent pas pourquoi vous changez. Avant, vous alliez avec eux dans toutes les fêtes imaginables, vous faisiez des excès de toutes sortes. Et moi aussi, malheureusement, et on a changé. Et à ce moment-là, ils nous comprenaient, ils ne nous mettaient pas à part, ils ne nous traitaient pas de malfaiteurs ou de gens inacceptables. Mais maintenant, oui, parce qu'on a cessé de faire ces choses-là. On est devenu différent et on a été rejeté. C'est comme ça. Il dit, afin que là même où ils vous calomnient, qu'ils ne vous comprennent pas, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Voyez-vous, même si les gens n'acceptent pas ce que nous faisons, les fêtes que nous célébrons, nos façons d'agir, nos façons de faire, il dit, ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc, ça pénètre. Ils le savent. Ça reste dans leur esprit. Ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Il glorifie Dieu quand il voit nos bonnes œuvres? Non, il l'explique tout de suite après. Et qu'il remarque vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, au jour où Dieu va les appeler, certains d'entre eux vont se rappeler que vous étiez différents, que vous avez peut-être même payé un grand prix pour être différent, pour observer le samedi, alors qu'avant, vous n'observiez aucun jour ou que vous observiez avec tout le monde de votre région le dimanche. Voyez-vous? Alors, c'est ça ici. Le jour où Dieu va les appeler, ils vont faire le lien. Et pour eux, ce sera comme un encouragement à aller dans cette direction-là. Ils auront déjà un certain pas d'avance de fait. Et c'est aussi ça, faire l'œuvre de Dieu. Bien sûr, faire l'œuvre de Dieu, c'est prier pour que l'œuvre réussisse. C'est donner nos dîmes. Donner nos offrandes, ça c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est prier pour nos frères et sœurs qui sont malades ou qui ont des besoins. Mais c'est être le sel de la terre, être ces exemples qui vont porter des fruits soit à notre époque ou soit plus tard dans le temps quand Dieu va les appeler. Peut-être va-t-il les appeler à notre époque ou peut-être va-t-il les appeler seulement après le retour de Christ s'ils sont parmi les survivants ou plus tard à la deuxième résurrection, s'ils sont ramenés à la vie seulement après le premier mille ans du règne du Christ. Alors, voyez-vous, c'est ça aussi, faire l'œuvre de Dieu. Là. En plus que de prier, de payer les dîmes, de servir les autres, de soutenir l'Église de toutes sortes de façons, faire l'œuvre de Dieu, c'est d'être le sel de la terre chaque jour, dans les petites choses. Ça, c'est l'œuvre de Dieu faite par chacun des appelés chaque jour dans son milieu avec les gens qu'il rencontre. J'appellerais ça prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple. Et c'est de mettre en terre une semence. J'aime ça le voir de cette façon-là. C'est de mettre en terre, dans le cœur de ces gens-là, une semence pour le futur qui va germer au moment où Dieu va les visiter, où Dieu va les appeler. Voyez-vous, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes celles de la terre, nous laissons inévitablement des traces. Nous laissons inévitablement des empreintes de vie chrétienne autour de nous. Je vous donne un fait vécu par rapport à ça qui m'a marqué beaucoup à l'époque et qui illustre très bien ce que je vous explique maintenant. J'ai été pendant plusieurs dizaines d'années coordonnateur de la fête des tabernacles au Québec. Et à ce titre-là, entre autres, j'avais à négocier le nombre de chambres d'hôtel ou de condominiums ou de chalets qu'on avait besoin chaque année pour les 8 jours de la fête, pour les 7 jours de la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Et je négociais avec les propriétaires d'hôtels, de motels ou de condos. Et je me rappelle qu'en 1988, dans la région de Hofford, il y avait un établissement qui comprenait plusieurs condos. Bon, on avait utilisé cet établissement-là en plus de plusieurs autres parce qu'à l'époque, on était nombreux. Et à ce moment-là, cette année-là, en 88, il y a un membre de l'église qui avait eu un petit accident dans son condo. Il avait brisé un verre. C'était pas un verre très, très ordinaire. C'était un verre un petit peu plus spécial, mais c'était pas du cristal non plus, là. C'était pas un verre de grande, grande valeur non plus. Mais ce qui est arrivé, regardez bien, c'est que ce membre-là avait brisé un verre. Il s'est rendu au bureau de ce condominium-là, là où était la direction, et il est venu leur offrir de rembourser le montant du verre qu'il avait brisé. C'était pas un dommage énorme, mais lui avait pour principe, j'ai brisé, je vais rembourser ce que j'ai brisé. Pas besoin de vous dire que les gens ont été plutôt surpris de voir que cette personne-là venait offrir de payer le verre qu'elle avait brisé. Eux autres ont eu des choses pas mal contraires à ça dans le passé. Il y avait des gens, pas de l'église, mais des gens de l'extérieur, parfois qui brisaient, qui se sauvaient après, là, ou qui cachaient leur brisure. Alors que nos gens de l'église, cette personne-là entre autres, voulaient payer le petit dommage qu'elle avait fait. Alors, ils n'ont pas voulu que la personne paie pour ce verre brisé, absolument pas. Alors, c'est un bon témoignage. Voyez-vous, mon exemple est bon. Mais ça se termine pas là. Quand je vous dis que être le sel de la terre, ça donne du goût, mais ça donne du goût de façon étendue aussi. C'est que après cette année-là, l'établissement où il y avait plusieurs condos, cet établissement-là a été vendu à un autre propriétaire. L'année suivante, c'est encore moi qui négociais, j'ai rencontré un nouveau propriétaire pour négocier pour 8 à 10 jours un bon nombre de condos dans son établissement, ce qui nous donnait déjà des bons prix. Mais c'est où ça s'est passé? C'est que le nouveau propriétaire m'a rappelé cet événement-là qu'un membre de l'église était venu au bureau de l'ancien propriétaire pour rembourser les frais d'un verre qu'il avait brisé. Le nouveau propriétaire le savait, ça avait frappé, hein, et ça avait donné des résultats jusque-là. Alors, ce nouveau propriétaire-là savait qu'on ne briserait rien dans son établissement et il m'a consenti des prix encore inférieurs pour l'ensemble des condominiums cette année-là, que l'année d'avant. C'est fort, hein? Quand on dit qu'être le sel de la terre, ça a des résultats, mais ça a eu des résultats même pour les membres d'église qui ont payé cette année-là moins cher pour les condominiums. Ça a eu des résultats pour la réputation de l'église. Et ces gens-là, quand ils seront appelés, que ce soit au cours de la période présente ou après le retour de Christ ou à la deuxième résurrection, vont sûrement se rappeler qu'il y a eu quelqu'un de bizarre qui a fait quelque chose que personne de normal, entre guillemets, faisait, que quelqu'un a fait un geste auquel il n'était absolument jamais habitué de venir rembourser un simple verre cassé. C'est formidable. C'est ça, être le sel de la terre. Ceux qui nous entourent, et je termine avec cette question-là, là où nous vivons, ceux qui nous entourent peuvent-ils goûter un peu de la culture de Dieu qui est en nous? D'abord, est-ce que la culture de Dieu est en nous? Est-ce que je suis en train de continuer à la développer? Mais si c'est le cas, ceux autour de nous doivent pouvoir la goûter, même s'ils ne comprennent pas tout, même s'ils ne comprennent pas pourquoi, ils doivent la goûter, être capables de l'apprécier. Est-ce qu'ils goûtent un peu de ce que Dieu nous donne de développer par l'action de sa puissance en nous? Parce que ce n'est pas par notre force ni par notre valeur qu'on peut faire ça. On doit demander à Dieu de vivre en nous, hein, et de nous diriger, de guider nos actions, de nous inspirer. Et il le fait quand on lui demande. On peut même lui demander, dans le sens du sermon d'aujourd'hui, « Donne-moi, Père, d'être davantage, pour ta gloire et la gloire du Christ, d'être davantage le sel de la terre. » Et que ce soit perceptible autour. Que ça apporte du bon et du beau aux gens avec qui je viens en contact. Alors voyez-vous, ceux qui nous entourent peuvent-ils goûter un peu de la présence et de l'action du Christ en nous? Parce que si je suis véritablement un chrétien, le Christ vit en moi. Je dois lui demander de vivre en moi. Je dois lui demander d'aller plus loin même, d'occuper tout l'espace. Des fois, j'ai dit ça. Seigneur Jésus, viens en moi, là, puis occupe tout l'espace, de plus en plus, de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments, de mes désirs, pour que je devienne le sel de la terre, pour que j'accomplisse l'œuvre de Père, que je t'honore et que j'honore Père. Vous nous avez tout donné. Vous m'avez tout donné. Alors, si c'est le cas, si le Christ vit en moi, pour que les gens le perçoivent, même s'ils ne savent pas que c'est Christ qui vit en moi, pour que ce que je présente dans mon témoignage, dans ma façon de vivre, de parler, d'agir, de me comporter, soit agréable pour eux et leur donne soif de ça. Alors voyez-vous, notre rôle de sel de la terre doit être évident, il doit être perceptible et il doit être agréable comme le sel par rapport aux aliments.